Bonjour, Coco Cash.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et Devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde, des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres. Doula, créatrice de Maman de la Lune et éducatrice Montessori et Nature dans l'association Brin de Curieux. Je suis également la maman de trois merveilleux enfants qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements. Libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés aussi. Lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Dans cet épisode 15, je suis heureuse de recueillir le témoignage de Pénélope, maman de Thali, une jeune fille fervente auditrice du podcast, qui est née par césarienne programmée. En effet, si la présentation en siège permet tout à fait une naissance vaginale, cela peut faire peur à bon nombre de professionnels qui choisissent de ne pas accompagner les femmes dans cette démarche. Merci à Pénélope d'oser venir nous livrer un bout de leur histoire. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue à Pénélope dans la cabane du fond du jardin pour enregistrer cet épisode. Je suis très contente de pouvoir recueillir ton témoignage.
Bonjour Laetitia. Moi, je suis très contente d'être là. J'ai une fille qui a 11 ans, qui s'appelle Thali, qui est née par césarienne, car elle était en siège complet. Donc complet, ça veut dire qu'elle était vraiment cercle, enfin, qu'elle avait les pieds sur les oreilles quoi, quand elle est née, qu'elle n'était pas dépliée.
Il y a plusieurs manières d'appeler siège en fait. Et il y a siège complet, décomplété.
C'est ça.
On pourra mettre des images aussi.
Ouais. Donc ça faisait un rond quoi. Quand on l'a présenté, elle avait vraiment encore. Mais elle avait les pieds contre les oreilles quoi. Vraiment, c'était sa position. J'ai appris que j'étais enceinte. C'était pas du tout une grossesse programmée ou désirée, j'étais pas en couple, donc j'ai appris ma grossesse, un peu je me suis dit, ah je suis vraiment des changements d'humeur très bizarres en ce moment, je me suis dit, je deviens peut-être blonde et tout, je sais plus du tout de quoi j'ai envie, je me rappelle, j'étais devant un truc, il y avait une espèce de on pouvait acheter des parts de pizza et tout, et puis j'étais là, fromage ou viande, et j'étais là, j'arrivais pas à choisir et tout, et 10 minutes, et je disais, ah, c'est pas possible et tout. Je me suis dit, ah, bon, ben en fait, là, soit je deviens blonde, soit ben je suis enceinte. Du coup, je suis rentrée chez moi le soir et j'ai fait un test de grossesse.
T'avais un très gros a priori sur les blondes quand même.
Grave, c'est horrible maintenant. Je sais même pas si j'oserais dire ça à Thali. Avec les blagues et tout, c'est horrible. Bon, du coup, c'est vraiment la phrase qui est venue quoi.
Ah ouais.
Du coup, je suis rentrée et en fait, je vivais en camion et j'avais fait un test de grossesse quelques temps avant parce que j'avais remis un moyen de contraception. Et du coup, en remettant ce moyen de contraception, j'avais fait un test pour être sûre de ne pas être enceinte. C'était un patch contraceptif. Et du coup, c'était des tests par deux, il me restait un test, donc je fais le test. Et je vois, y a une croix qui arrive, mais en fait, je ne savais pas lire le résultat parce que j'avais plus la boîte. C'était une asso qui m'avait donné le test et j'avais que le test emballé dans le papier. Donc je me retrouve à 11h du soir, minuit, avec mon test avec une croix dessus et dans la ville et sans savoir comment j'allais faire. Quoi. Et là, j'ai un flash et je me dis, je vais appeler le centre de le Info SIDA Service. Eux, ils vont peut-être savoir m'aider. Donc, je vais à la cabine téléphonique. parce que j'avais pas de, enfin voilà, d'autres solutions. J'appelle et je tombe sur un mec. Je dis bah voilà, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire plus sur un test de grossesse, parce que j'ai pas la notice. Il me dit bah donnez-moi la marque du test et je regarde sur internet quoi, en direct et tout. Et du coup bah il me dit bah ça veut dire qu'il est positif, donc voilà, je vis ça, j'apprends que je suis enceinte comme ça avec un inconnu au téléphone qui me dit vous êtes enceinte, ça va et tout. Bah ouais, ça va, voilà. Et je retourne dans mon camion et c'était un peu waouh, enfin j'étais super contente, mais c'était vachement inattendu de... Voilà, donc c'était waouh, stupéfait, un peu stupéfaite quoi. Et à la fois, avec le coup de plus, ça faisait quelques jours que je savais plus où j'en étais, que toutes les décisions étaient difficiles à prendre. Donc à la fois, ça a continué. Enfin, c'est comme si un peu je le savais, mais là, ça y est. Waouh. Et du coup, le lendemain, je suis allée dans une asso, ils m'ont refait un test urinaire, il était repositif et voilà, et c'était parti dans cette grossesse.
Avec du coup le test urinaire, t'es assis de combien de temps t'étais enceinte aussi?
Non, c'était pas des tests. D'accord. Qui disaient. Après, j'ai fait une prise de sang et j'ai su qu'en fait j'étais enceinte de vraiment pas longtemps. Okay. Alors maintenant, je me rappelle plus si en fait j'avais mes règles qui n'étaient pas venues ou si je l'ai su juste avant qu'elles viennent. J'arrive pas à m'en souvenir, mais voilà. Donc quand j'ai fait le test sanguin, j'étais enceinte de 3 semaines, quoi. Mm-hmm. Enfin voilà. Et ma première écho, c'était même pas un mois, parce que j'ai voulu faire une écho de datation pour savoir vraiment quand avait, enfin voilà, la date présumée pour savoir qui pourrait être le père de cet enfant. Voilà, donc ça a commencé comme ça, écho de datation, de voir les deux poches là au début. Enfin, c'est impressionnant, pourquoi il y a deux poches, pourquoi, enfin voilà. Et après, je suis partie dans... j'ai toujours su que si j'avais un enfant, je voudrais le garder. Enfin, l'avortement n'était pas une possibilité pour moi. Après, quand ça arrive, on sait jamais. Donc voilà, mais c'était pas envisageable non plus à ce moment-là. Donc voilà, j'étais enceinte, j'ai fait mon écho de datation et c'était parti. Moi, je viens d'un milieu où il y a des femmes qui accouchent à la maison. Et j'avais décidé avant que j'accoucherais à la maison. Donc, j'étais... Enfin, je sais pas si c'est un milieu, mais... Donc, j'étais là-dedans, dans comment je vais faire pour pouvoir accoucher à la
Qu'est-ce
maison.
Que tu veux dire? T'as un milieu, du coup?
Ouais, pas un milieu, mais ma maman et ses copines, beaucoup de mes amies d'enfance, les mamans avaient donné la vie à la maison. Enfin, c'était... Voilà, c'était... J'étais pas... Ouais, c'était possible quoi. Il y avait
Tu avais toujours connu ça.
Voilà, il y avait l'accouchement à la maison ou l'accouchement à la maternité. Du coup, voilà, comme l'école en école ou l'école à la maison quoi. Enfin voilà. Donc, moi j'avais fait un stage en fait. Je voulais être auxiliaire de puériculture. Donc, j'avais fait un stage à la maternité. Dans une maternité avec très peu de naissances dans la Nièvre. Et j'avais vu comment était. Traiter les femmes entre guillemets, enfin comment étaient pris en charge les femmes et au bout de mon deuxième jour de stage j'avais dit je suis sûre que je vais accoucher à la maison, parce que voilà, enfin j'avais ces récits de femmes qui avaient accouché à la maison, mais moi je m'étais, enfin voilà, mais là d'avoir vécu ça, l'anesthésiste qui vient 4 fois taper en salle de naissance de la femme pour dire je pars dans une demi-heure, si vous voulez une péridurale c'est maintenant, et il revient 3 fois quoi, parce que c'était la période de Noël, donc il voulait se casser et c'était la troisième grossesse, et la femme au bout d'un moment, le troisième accouchement, elle dit bah oui faites-la moi, et puis après elle pleurait parce qu'en fait ça avait duré une demi-heure et qu'en fait elle en avait pas besoin et que les autres ça s'était passé sans, mais qu'elle, elle était, enfin voilà, des témoignages un peu comme ça de voir à quel point dans un moment où on a besoin de bienveillance, que tout le monde soit tourné vers nous et d'avoir pas avoir des gens qui font intrusion dans ta bulle pour te dire c'est maintenant ou jamais, alors que le jamais, bon, enfin voilà, donc je m'étais dit ça. Et Donc je commence à me renseigner, j'en parle à ma maman qui du coup de son positionnement avait pas mal de recul. Donc qu'est-ce qu'on fait, parce que je vivais en camion, donc dans ton camion ça va être compliqué. Chez nous, dans la Nièvre, là où mes parents vivaient, bah il y avait pas de sage-femme qui accouchait à la maison à ce moment-là. Donc elle me parle du fait de louer quelque chose pour se rapprocher d'une sage-femme qui faisait des accouchements à la maison.
Le terme était quand, du coup ?
Donc, le terme était prévu le 1er octobre. Okay. Voilà. Et très vite, on se met à parler de ça. Donc, voilà. Donc, elle... Enfin, c'est vrai que le recul d'avoir sa maman qui avait déjà envisagé ça avec des amis, enfin, voilà, qui avait déjà... Donc, elle me donnait des clés que j'avais pas pensé à la location, quoi. Mmh. Je pensais chez elle, problème de sage-femme. Donc, voilà. Donc, on en arrive au point que si je décide de vraiment accoucher à la maison, ben, peut-être on louera quelque chose, on se fera prêter quelque chose à côté d'une sage-femme. Et du coup, je suis rassurée. Voilà, c'est au tout début de ma grossesse, donc j'y vais tranquillement. Il y a ma première écho de datation, après j'ai une autre écho où ils me font entendre le cœur, donc ma maman vient avec moi, il me propose de faire le test pour...
Le tri-test peut-être.
Ouais, le tri-test, alors là j'ai même pas le temps de répondre que ma mère a dit ça va pas, non, elle a moins de 20 ans, enfin voilà, ma mère est pharmacienne, elle est vachement informée là-dessus, donc les taux, il n'y a aucun, enfin les taux sont vachement bas, c'est des pourcentages, donc voilà, donc en fait... La personne en face n'ose plus rien dire et on ne proposera plus jamais de faire un test. Et... Ce qui en fait a été difficile parce que jusqu'au dernier moment, j'avais un peu peur que mon enfant soit handicapé. Mmh. En fait, bon, alors peut-être j'aurais fait le test et j'aurais toujours eu peur, mais voilà. Je... Bon, en tout cas, voilà, donc première écho, on entend le cœur, c'est assez merveilleux comme moment. Là, il pose le petit appareil et t'entends tout ce bruit qu'il y a dans ton ventre. Et après, donc, la deuxième écho, je la fais toute seule. Enfin, je la fais avec une copine, sans ma mère. Et là, panique. Donc, je suis enceinte de 6 mois. Et panique, mon bébé est en siège. Comment c'est possible qu'on soit paniqué à 6 mois? Enfin, il reste 3 mois. Ils me disent, oui, il va falloir envisager une césarienne. Donc là, enfin, je suis mal en sortant du rendez-vous. Je me dis, bon, bah, accouchement à la maison en césarienne, enfin, voilà, ça me semble pas possible.
En siège.
En siège, pardon. Ouais. physiologique aussi. Enfin, voilà. Enfin, je vois déjà qu'ils... Enfin, personne... Le gynéco qui fait l'écho est déjà paniqué. Enfin, voilà. Donc, je me prends dans... En pleine face, tout ce stress là, et ouais, je sais plus. Je crois que ma maman prend un peu le relais en me calmant, en me disant qu'on va essayer de voir les possibilités qu'il y a. Je suis suivie par une sage-femme en apnonomie, donc on en parle. Et je me rappelle que dans les méthodes de l'apnonomie, il y a des façons de retourner le bébé. Mmh. Voilà, donc j'en parle avec ma sage-femme qui me dit qu'elle sait pas le faire, qu'elle voit pas comment faire. Donc je suis un peu déçue parce que, enfin, pour moi c'est un des gros points de pourquoi j'avais choisi l'autonomie, c'est parce que je savais que c'était possible de faire ça, enfin de bouger le bébé. Et du coup là je me dis bah pourquoi elle sait pas faire, enfin voilà. Donc voilà. Et du coup, je commence petit à petit à faire le deuil de mon accouchement à domicile. Enfin, voilà, jusque-là, j'étais... Enfin, je me sentais prête à... Enfin, voilà, pour moi, c'était chouette d'accoucher à la maison. Là, ça rajoute un poids que je suis... Enfin, voilà, que je me sens pas capable de faire, que de toute façon, aucune sage-femme voudra m'accompagner.
Toi, tu le vois comme quelque chose qui n'est pas possible de toute façon.
Voilà.
À aucun moment, tu t'es dit, c'est envisageable.
Ouais, non, ouais, ça ferme vraiment cette porte-là dans ma tête. Quoi,
et tu avais parlé de ton projet de vivre un accouchement à la maison, par exemple, au gynéco qui t'a suivi, qui t'a fait
l'écho. Alors j'étais suivie dans deux maternités différentes parce que j'étais en camion dans deux régions différentes. Donc j'étais suivie plus par une sage-femme qui savait enfin oui, dont qui avait mon prof, enfin voilà, qui savait que peut-être je voulais accoucher à la maison. Et par une clinique dans la Nièvre, enfin un gynécologue dans la Nièvre.
D'accord.
Non, le centre périnatal à Clamecy au début.
Ok.
Donc par, enfin voilà, une autre sage-femme, qui était un homme d'ailleurs, à Clamecy. Et non, je pense que j'en ai, enfin ma sage-femme qui faisait l'autonomie, oui. Mais je pense qu'à Clamecy, j'avais pas envie de les alarmer aussi, centre périnatal. Enfin voilà, j'avais pas envie qui colle une étiquette, donc je leur avais pas parlé de...
Sachant qu'il y a un facteur âge, tu avais quel âge à cette époque-là?
J'avais 20 ans.
Ce qui n'est pas particulièrement jeune, mais qui souvent, mine de rien, je crois que l'âge moyen actuellement c'est 28 ans, tu vois, ouais. Pour la première, le premier enfant. Donc ça fait quand même...
Ouais. Ça fait que t'es vite infantilisé, ma vie à côté alternatif, d'être en camion, de vivre dans deux départements différents, de pas avoir de maison encore pour accueillir ce bébé. Enfin, moi, j'avais vachement peur de qu'il ait tiré, enfin voilà, que je sois affichée rouge, entre guillemets, enfin, qu'il s'alarme. Donc, je parlais pas trop de mon envie d'accoucher à la maison. Surtout que j'avais vu une assistante sociale parce que j'avais le droit au RSA vu que j'étais enceinte et qui avait failli faire un signalement. J'avais été reconvoquée par sa supérieure et qui m'avait fait lire son rapport qui était accablant où elle avait vraiment tout déformé ce que j'avais dit et où on en avait reparlé toutes les deux et qui m'avait dit tout va bien, je vois que vous allez bien et que voilà que vous allez vous poser, enfin voilà que c'est le début de votre grossesse et que du coup vous êtes encore en camion mais que vous cherchez des solutions et tout, on en restera là. Donc je devais être à moins de 3 mois de grossesse. Donc là j'avais compris qu'en fait il fallait quand même faire vachement attention voilà aux étiquettes qu'on pouvait me mettre par rapport à ma façon de vivre, par rapport à mon âge, par rapport à ma façon peut-être alternative pour certaines peut-être personnes de voir les choses.
D'être maman célibataire.
Maman célibataire. Enfin voilà, que j'avais vraiment le panel le jackpot pour ce genre d'étiquette-là. Donc voilà, à Clamecy, j'en avais pas du tout parlé.
Du coup, à aucun moment, tu t'étais dit que c'était envisageable et puis tu étais hyper déçue finalement que ta sage-femme en autonomie, elle te dise qu'elle pouvait pas faire une manœuvre.
J'abandonne vraiment, je fais le deuil. J'avais vraiment l'impression d'avoir fait le deuil de cet accouchement à domicile. Voilà, ça ne sera pas possible pour cette première grossesse. Ok, ben tout va bien, je rebondis. Enfin, je vis ma tristesse quand même, quoi. Enfin... Le fait que... Et je rebondis et du coup, je commence à me battre, entre guillemets. Je fais des guillemets avec mes mains. Parce que, en fait, ben, primipare, premier bébé, 20 ans, on veut me faire une césarienne. Enfin, voilà,
Et là, t'es enceinte de 6 mois. Aucun moment, on te dit que le bébé... Puisque très tard, jusqu'à la fin en fait, hein, il peut se retourner.
Aucun moment on me dit qu'il peut se retourner. On me dit que c'est presque impossible d'accoucher par voix basse, par voix basse. Enfin voilà, tout le discours est là-dessus. Donc j'ai une copine qui me dit un soir, mais moi je me suis retournée au dernier moment, j'étais en siège. Donc je me rends compte quand même que c'est peut-être possible de se retourner. Je pense que si, enfin, à ce moment-là, j'étais en Savoie et pas dans la Nièvre, donc loin de ma maman, je pense que ça aurait été différent si elle m'avait accompagnée, parce que je pense qu'elle m'aurait vachement dit que le bébé pouvait se retourner et tout, mais c'était un moment où j'avais un peu besoin de m'émanciper aussi et de peut-être le fait de, enfin voilà, d'avoir tout prévu pour accoucher à la maison et qu'en fait ça soit pas, enfin ça soit pas possible, c'est trop dur et du coup je me recule un peu je prends du recul par rapport à notre relation. Donc voilà, je vois donc qu'est-ce qu'il me propose comme solution. Donc on parle d'une version. Je pense que c'était avant. En tout cas, je fais, je sais plus dans quel sens c'est, mais je fais une, on prescrit une radio de mon bassin pour voir, vu qu'il voit que la césarienne, enfin voilà, j'ai pas envie d'avoir de césarienne, je veux accoucher par voie basse, donc ils me font une radio du bassin et ils me disent, madame, vous avez le bassin trop étroit, vous pourrez pas, faire naître votre bébé, il faut faire une césarienne. Donc là, je me retrouve à faire le deuil, après le deuil de l'accouchement à la maison, de faire le deuil de l'accouchement par voie basse. ce qui est très très dur pour moi, très très dur, enfin voilà, donc je ne fais pas de préparation à l'accouchement, ça devient trop dur en fait de se battre entre guillemets ou de trouver d'autres alternatives. Enfin, j'arrive plus à me projeter. Je me dis ok, bon bah c'est comme ça, je vais avoir une césarienne. Donc ça c'est ça doit être au 7e mois de grossesse. Donc j'ai dû faire ma version avant. En fait, ils ont essayé de me faire une version. Donc une version, c'est un moment où ils essayent de retourner mécaniquement le bébé, donc ils appuient sur le ventre très fort, enfin pour que le bébé se retourne. Sauf que moi, comme on faisait de l'autonomie, mon bébé venait au contact de la personne, je sais pas si c'était un gynécologue, un médecin ou une sage-femme qui faisait ça, mais cette femme qui faisait ça me disait oh, mais c'est bizarre, le bébé vient vers moi, vient vers moi. Et en fait, après, avec le recul, je me suis dit bah oui, c'est normal, en fait on faisait de l'autonomie, vous venez chercher le contact, mon bébé vient au contact en fait, enfin voilà, c'est ouf, enfin voilà, ils m'ont pas demandé ce que je faisais comme accompagnement et comme préparation, du coup voilà. Donc la version ne marche pas. Du coup, je commence à me dire, ben, c'est une expérience aussi la césarienne. En fait, je vais vivre ça, quoi. La vie me montre que je peux pas faire autrement si j'ai le bassin trop étroit. Enfin voilà, je suis jeune, je suis toute seule. Voilà, je commence à avoir envie de faire confiance aux gens aussi. Enfin voilà, en cet hôpital, en cet état de médecine, quoi. Donc je me laisse bercer. Ok, je vais avoir une césarienne. Du coup, je me rends compte que mon bébé va être aspiré, enfin tout ce que qu'il faut faire. Que au début, je me disais ok, bon, accouchement par voie basse à l'hôpital, donc aspiration, voilà, un bébé qui est enlevé pour être mesuré, machin. Donc ça, dans ma tête, j'allais tout refuser avec mon projet de naissance. Et là, je me rends compte, ben non, qu'en fait, si un bébé, ben, il naît par césarienne, on l'aspire parce qu'il peut pas.
Il n'y a pas le même réflexe.
Ouais, il n'y a pas le même réflexe. Donc voilà, je me prends ça aussi en pleine face, quoi, de tout ça. Et puis je me dis, bon, bah, c'est la vie, allez, on y va, c'est comme ça. Je lâche prise et voilà. Et du coup, donc à 8 mois et demi, j'arrive dans la Nièvre et je vais rencontrer le gynécologue qui va m'accoucher. Donc voilà, on est un mardi. Donc j'ai rendez-vous avec lui, j'ai tout mon dossier. Puis là, il regarde... Moi, je vais faire une parenthèse sur le fait que ma maman travaille dans cette clinique. Elle est pharmacienne, donc elle est cadre dans cette clinique. Du coup, je vais au rendez-vous avec ma maman. Et du coup, bah voilà, ils se connaissent et tout. Donc, il regarde mon dossier, je vois qu'il crayonne quelque chose avec sa main. Et puis, il me dit, mais non, mais ils t'ont menti, en fait, sur les mesures de ton bassin. Tu peux accoucher par voie basse, regarde, il faut faire un calcul et il faut que ça donne un résultat, donc je sais plus. Voilà, mais en tout cas, regarde, je lui fais, mais t'es sûre? Et il refait une autre fois, il me fait, oui, regarde, ça doit faire ça, c'est une technique qui est faite en France. Enfin voilà, quand on n'a pas envie de prendre de risques, on ment sur. Donc là, alors moi qui avais fait le deuil de l'accouchement par voie basse, là en fait, à 15 jours du terme, on est en train de me dire que je peux accoucher par voie basse. Il me dit, ben moi je veux bien t'accoucher par voie basse. Enfin, je pense que c'est une première grossesse, que ça va être compliqué et tout. Voilà, mais voilà, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Oh, là, je tombe vraiment des nues, quoi. Je me rappelle un peu. Enfin, tout s'écroule, quoi. Je veux dire, c'est dur, quoi. Je me dis, waouh. Enfin, c'est dur, c'est. Je sais pas quel mot dire, mais je suis bouche bée. Donc, ma mère disait qu'on arrête le rendez-vous, en fait. Elle me propose d'aller faire un tour dans la maternité. Donc, j'ai fait des stages dans cette maternité. Donc, je connais les sages-femmes et le personnel soignant. Donc, je vais et je demande... J'ai besoin d'avis. Je suis tellement choquée que j'arrive plus
à réfléchir à
tout. Et ma mère me propose d'aller rencontrer les sages-femmes que je connais pour aller leur demander leur avis. Et là, tout, elle me dit, c'est un premier accouchement. Ça va être compliqué. pour une césarienne, ça va être compliqué. Enfin, voilà. Pour moi, la préparation à l'accouchement était super importante à ce moment-là. Donc, j'avais fait en autonomie, mais pas... Enfin, préparation au massage par rapport aux contractions, le fait de se détendre, de voilà. Mais pas, on m'avait pas expliqué vraiment enfin, ce que je pensais être les... Enfin,
voilà. Les prérequis.
Les prérequis qu'il fallait, qu'en fait, c'était complètement fantasmé, entre guillemets, parce que je savais pas du tout de quoi ils allaient me parler, mais genre, ils allaient m'apprendre à compter mes respirations, faire le petit chien, mais genre j'avais pas ça, donc je pouvais pas accoucher quoi. J'étais vraiment mince, en 15 jours je vais pas pouvoir rattraper tout ça. Et puis se dire aussi, enfin là on m'avait dit que mon bébé allait venir tout de suite, et là il faut que j'attende. Je suis presque prête à l'accueillir maintenant, en fait je me suis conditionnée pour l'accueillir dans quelques jours, et là il va falloir que j'attende encore 15 jours. Enfin tout est compliqué quoi, cette peur de pas être préparée, le fait de repousser, de pas le découvrir maintenant alors que j'ai envie de le découvrir, parce que enfin je suis complètement perdue. Donc le gynéco me propose, on retourne dans son bureau, on refait un point et il me dit bon ben on programme quand même une césarienne, tu veux accoucher quand? Pardon, tu veux accoucher quand? Ah, parce qu'on peut prévoir son accouchement, je vais pas avoir de je vais pas avoir de travail, je vais pas avoir de contraction, vendredi, regarde, donc on est mercredi, vendredi ben c'est le nouvel an juif, c'est un chouette jour pour une naissance. Alors là je me reprends un peu de bouge, enfin je... Mais dans quel monde je vis? Qu'est-ce que c'est que... Voilà, ce... Donc je dis, bah ok, nouvel an juif, très bien. Bon, bah, il faut être là à 7h du matin. Les césariennes, c'est tôt. Voilà. Waouh, je... Ouais, je pars complètement... dépité, ouais, c'est ça, le mot dépité. Donc voilà, donc après je réfléchis au fait que j'ai envie d'accueillir ce bébé maintenant. Est-ce que j'ai envie d'attendre encore 15 jours? Ou est-ce que... Voilà, au fait que bah, je vais pas avoir de travail. Alors, césarienne aussi, on m'avait jamais dit, ok, césarienne, mais césarienne, ça veut pas dire qu'on n'attend pas que le travail se fasse, en fait. Le gynéco m'a expliqué pendant le rendez-vous qu'en fait, on pouvait pas attendre que le bébé grossisse trop pour la césarienne, et que le poids qu'il allait prendre en 15 jours était trop. Ok, pourquoi pas, mais on aurait pu m'expliquer ça à 6 mois de grossesse, parce que voilà, pas de travail, pas de...
C'est une césarienne programmée à l'avance.
Pour moi, il n'y a pas longtemps, je disais encore que je n'avais pas accouché, en fait, parce que j'ai eu aucun signe de l'accouchement. J'ai pas eu de travail, j'ai pas eu de... Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on m'a volé un peu tout ça, quoi. Donc voilà, donc je décide quand même que la césarienne est une expérience qu'en fait moi j'aime bien. J'aime bien les expériences, j'aime bien pouvoir se rendre compte de ce que les femmes vivent. Enfin voilà, et je me persuade un peu comme ça en me disant bah écoute, t'auras cette expérience, tu pourras te rendre compte de ce que les femmes avec des césariennes ont vécu. Voilà, donc je dis ok, c'est parti, vendredi, je découvrirai mon bébé, donc je profite de ces deux jours, je fais mon sac, je dors, parce que je me dis faut dormir, après on sait pas si on peut dormir, moi j'ai une différence d'âge avec mes petites soeurs, et j'ai vu que ma maman, elle dormait pas, quoi, donc je passe deux jours, à dormir, à faire mon sac, à tout préparer pour ce bébé. Et c'est drôle, j'ai une anecdote qui me vient dans la tête. Donc je ne connaissais pas le sexe de ce bébé et je pensais que c'était une fille. J'étais intimement persuadée que c'était une fille. Du coup, j'avais un seul prénom et un prénom de petite fille, quoi. Et du coup, j'ai vécu 24 heures avec ma maman à côté qui me disait tous les prénoms qui lui passaient par la tête pour un garçon. Parce que oui, c'est bien d'être connecté à son bébé, d'être déterminé. Enfin voilà. Mais voilà, elle était complètement paniquée de...
T'as l'idée que tu puisses avoir un fils et que t'avais du mal à trouver un prénom.
Et que j'avais pas de prénom, quoi. Où j'avais un prénom un peu... Oui, j'en avais un, mais il me plaisait pas vraiment. Enfin, voilà, oui, j'en ai un de... Donc voilà, donc c'était drôle, je faisais la vaisselle et d'un coup elle me dit comme. Bah qu'est-ce qu'il y a comme, ça veut dire quoi comme? Bah c'est joli comme prénom comme. Oui, très bien. Donc voilà, c'était un peu drôle ces 48 heures là avec des prénoms comme ça qui arrivaient d'une, enfin voilà. Donc je me prépare, voilà, j'arrive à la maternité, donc on se lève tôt, on arrivait, je me rappelle, arriver sur le parking, le jour se lever, de toucher mon ventre, de vivre ces derniers moments de femme enceinte, quoi, d'être tranquille aussi. J'ai des filles et des potes qui m'ont dit sur les photos que j'avais envoyées, « Ah, les photos, on s'est rendu compte que ça devait être une césarienne programmée parce que t'étais super tranquille sur les photos. » Bah oui, j'étais toute détendue, toute bien, Donc j'arrive, donc en fait ça a été très très long l'attente. Ils m'ont fait, ça a été long parce qu'en fait il y avait des gens en bloc et que c'était long. Donc j'ai eu pas mal de temps encore à patienter. Le protocole, bain à la bétadine, enfin douche à la bétadine, enlever les piercings. Ils voulaient, j'ai des piercings sur le torse, ils voulaient que je les enlève pour l'électrogramme parce qu'ils posent des capteurs. J'ai refusé de les enlever parce que je pouvais pas les enlever et les remettre moi et qu'ils m'avaient pas prévenu. Donc voilà, donc c'était un peu un moment de tension. Enfin voilà, sur ça, donc ils me rasent le pubis. Voilà, pour la césarienne, ça aussi, j'avais pas été avertie de ça. Donc ça commence quand même à être un peu ma bulle, elle est vachement, enfin voilà, il y a des actions sur mon corps directes sans qu'on m'ait prévenu des choses,
quoi. Dire que c'est, ouais. Ça commence à te stresser,
ouais, c'est un peu stressant, quoi. Donc je suis admise, je me rappelle, enfin voilà, je suis admise au bloc, j'ai ma maman avec moi qui est là, on me met l'oxygène, je trouve ça très très désagréable et je commence à un peu paniquer, enfin les tuyaux me font mal dans le nez, il y a cet air qui est propulsé, enfin j'ai vraiment un souvenir très désagréable de ça. Voilà, donc on entend tout. Je regarde ma mère qui me regarde en fait. Enfin voilà, c'est un peu un moment de. On commence à me couper la peau. Enfin j'entends, quoi, on entend le. Je vais pas refaire les bruits, mais ça, c'est impressionnant comme bruit de. Il y a quelque chose qui aspire le sang, donc ça fait comme une aspiration. Il y a quelque chose qui coupe, donc je sais pas. Enfin voilà, comme. Un peu une scie circulaire. Enfin voilà, c'est assez. Donc voilà, il y a tout ce temps un peu, en fait, qui s'arrête pas quelque part, qui est assez long où je sens que, enfin voilà, ça, c'est long. C'est assez long. Avant, il y a eu la rachéanesthésie aussi qui est encore une intrusion, quoi. Enfin, on vient dans le dos, il y a un tuyau, enfin c'est pas agréable. Enfin voilà, les gens parlent pas, enfin on t'explique pas ce qu'on va te faire encore une fois, donc voilà, et d'un coup on dit waouh, enfin d'un coup je vois donc j'ai un champ opératoire devant moi. Donc en fait je ne vois pas ce qui se passe, j'ai juste les bruits, ce tuyau d'air dans le nez là, ces deux trucs d'oxygène qui me brûlent, ces bruits bizarres, ma maman qui me tient la main, qui me regarde, c'est long, c'est émouvant aussi. Ma maman me regarde beaucoup, on se regarde dans les yeux et après elle m'expliquera qu'en fait elle regarde. Au début elle voulait regarder, enfin elle avait tendance à regarder parce qu'il y a ces bruits, elle est plus haute, elle peut voir, mais elle avait peur que ses yeux la trahissent sur, enfin le fait qu'on me découpe en fait, enfin c'est violent et elle avait peur que d'un coup elle fasse une grimace et tout, donc elle me regarde, quoi, donc on se regarde et d'un coup je vois. le gynéco, et je pense qu'il le dit, attraper par le pied ben, mon bébé, quoi, et le lever comme ça, par le pied au-dessus. Et je vois, voilà.
Quel geste!
Ma fille a été attrapée par le pied d'un coup, comme ça, d'un coup. Voilà, donc je l'avais réveillée avant. J'avais eu un peu. J'étais un peu paralysée quand tout a commencé, quoi. Et je savais pas à quel moment la réveiller. Je sentais qu'elle dormait dans mon ventre, elle ne bougeait pas. Je me disais, bon, est-ce que je la réveille? Comment je fais? Enfin, c'est horrible si d'un coup on lui ouvre la porte. Enfin, j'avais ce truc, d'un coup on te fracasse la porte de chez toi pour rentrer, quoi. Enfin, donc j'ai fini par la réveiller et par lui dire, là, bientôt tu vas naître, quoi. Enfin, voilà, appuyer sur mon ventre grâce à l'autonomie. Voilà, et elle s'est réveillée et lui dire, bon, enfin, voilà, on va venir te chercher, tu vas naître. Faut que tu sois là, quoi. Enfin, voilà. Donc voilà, ils l'attrapent, ils la mettent dans les mains de la sage-femme et ils veulent l'emmener. Et là, ma mère dit, il faut qu'elle voie son bébé. Donc voilà. Ah oui, elle est là, madame. Donc ils me l'amènent et ma mère me dit, parle-lui. Donc je suis, c'est, enfin voilà, c'est, ouais, c'est, je suis un peu pas choquée, mais oui, c'est tellement. Ah, sortie de son contexte, en fait, tout est tellement médicalisé, tellement. Donc voilà, donc je lui dis que je l'aime, ils sont loin, je peux pas la toucher, ils veulent l'emmener vite. Elle me regarde avec des grands yeux tout ronds et puis avec ses pieds collés à ses oreilles, elle s'est remise de suite en cercle. Voilà, donc je vois une petite tête avec des cheveux, plein de cheveux noirs, des grands yeux et ses pieds, quoi. Et voilà, et il l'emmène. Donc là, on en avait parlé avec ma mère. Ma mère ne va pas la lâcher d'une seule semelle. Enfin, elle va faire tous les... Enfin, voilà, elle va être avec les soignants tout le temps en parlant à ma fille de tout ce qu'ils vont lui faire. Donc voilà, donc... Donc là, je suis encore au bloc. Donc voilà, ma fille est partie. Et ils commencent à parler, donc là c'est beaucoup d'aspiration pour le sang, donc ils aspirent et ils commencent à une compresse, deux compresses, trois compresses, on trouve pas la quatrième, on trouve pas la quatrième, donc ils sont deux, quoi. Je pense une infirmière et une gynécologue, et du coup on trouve pas, aller où, j'ai commencé à graffer, va falloir, enfin voilà, donc je sens le stress, j'oublie peut-être que j'entends, enfin je sais pas, mais voilà, là je suis toute seule, maintenant ma maman n'est plus là, enfin voilà, je n'ai plus cette personne de confiance qui est avec moi. Et du coup, ils finissent par... Enfin, je trouvais ça très long comme minute, mais ils finissent par dire « Ah, c'est bon, j'ai la compresse, je l'ai retrouvée. » Donc, j'imagine, ils sont dans mon ventre, en train de... C'est assez improbable, quand même, les images qu'on a à ce moment-là. Et du coup, ils me recousent. Et je me retrouve en salle de réveil. L'anesthésie dure vraiment, enfin dès que je suis en salle de réveil, je commence à repouvoir bouger les jambes, ce qui, je trouve ça génial, et à la fois je flippe grave parce que je me dis, bah si j'avais pas retrouvé leur compresse, est-ce que l'anesthésie c'était très très fort et a très bien dosé pour que je puisse vite retrouver mon bébé, ou est-ce qu'il s'est un peu foiré et puis à 10 minutes près, enfin même pas, j'aurais commencé à ressentir la douleur, enfin voilà, donc ça je l'aurais pas trop posé la question, mais ça m'a vachement étonnée, quoi. Donc je me réveille très très, enfin mon corps se réveille très très vite parce que moi je suis qu'à moitié endormie, enfin c'est que mes jambes et mon bas-ventre, quoi. Donc je me réveille très vite et là l'infirmière commence à taper du poing sur la table en disant, bon ben, à appeler la maternité, ça y est, elle est réveillée, faut que vous envoyiez quelqu'un. Oui, mais on n'a pas le temps. Voilà, 5 minutes. Ça lui prend la tête. Je sens que cette femme est une. Enfin, voilà, quelqu'un d'humain. Et elle dit, bah, c'est pas possible, il faut vite. Donc, elle rappelle, non, on n'a pas le temps. Enfin, et en fait, j'ai plus attendu alors que je pouvais monter en maternité parce que personne n'était disponible à venir me chercher. Et finalement, elle s'agace un peu. Mais ça a duré longtemps. Ça a dû durer plus d'une demi-heure alors que j'étais, ça y est, pour elle, capable de remonter.
Du coup, ton bébé, ta maman, à ce moment-là,
Ben, ils étaient dans ma chambre.
D'accord,
ouais.
J'ai,
en fait, j'ai, ouais, j'avais juste à peine vu ma fille au tout début, quoi. Donc, voilà. Donc, elle finit par trouver un moyen qu'un autre brancardier, elle appelle un autre service, où elle pense qu'un brancardier s'ennuie et vient me chercher, quoi. Et elle me dit... Voilà, donc j'arrive dans la chambre et là, je découvre un petit enfant dans un berceau, là, une boîte à un bocal transparent, avec un petit bonnet, une petite brassière, quelque chose pour voir la respiration et voilà, qui dort paisiblement. Voilà, donc c'est, j'ai pas envie de la réveiller, à la fois j'ai envie de la prendre, enfin il y a tout ce moment. Donc ma mère me montre des photos qu'elle a pris pendant qu'elle nous attendait et tout. Et là je me rappelle plus si j'ai attendu vraiment qu'elle se réveille ou si j'ai fini par la prendre Donc c'est émouvant d'arriver d'être là. J'ai refusé le collyre dans les yeux et du coup la sage-femme est très en colère et elle apparemment elle est en train d'appeler la pédiatre de l'hôpital qui est chez elle et qui va arriver en urgence pour discuter avec moi de ça. Donc d'un coup j'ai deux espèces de, ah il faut pas me dire de mots péjoratifs, de femmes complètement affolées qui rentrent dans ma chambre en hurlant que il faut mettre le collier, que c'est pas possible de faire autrement, que la vie de mon bébé est en danger et tout. Là je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis super impuissante parce que je me dis waouh, ils font tout ça alors que ma mère est pharmacienne, travaille dans la structure. Donc je me rends compte qu'en fait elles ont vraiment peur. Que c'est...
Elle t'explique que ton bébé risque si tu ne acceptes pas de
le
collier.
Non, mais je lis vraiment, elles sont paniquées en fait. Je vois deux femmes paniquées. Et ma mère dit, mais non, mais elle risque rien et tout. Vas-y, c'est mal pharma. Enfin, voilà. Et en fait, je lis et je... En fait, il y a un conflit. Ma fille vient de naître, je pense qu'elle n'est pas encore dans mes bras et tout. Et là, j'ai trois personnes qui sont en train de s'engueuler dans ma chambre. Et là, je lâche prise en disant, ok, collier dans les yeux. collier, tac. Donc, allumer ses gouttes, elle se casse et... Non mais, enfin voilà, je sais pas, il y a un moment de stop, il faut que ça s'arrête et si elles sont aussi paniquées, je pense que la peur chez les gens peut vraiment faire aller loin. Et là, je ressens cette peur et je me dis, je veux pas gérer autant de peur et de conflits juste pour quelque chose qui pour moi est pas une bonne idée, mais en tout cas qui va pas abîmer mon bébé et qui... Donc je lâche sur ça et on fait la mise au sein. Donc ma fille se réveille, oui, bah forcément, hein, là, avec un conflit comme ça, voilà. Et on va faire la mise au sein avec ses yeux orange, qui coulent d'orange. Enfin, c'est assez... Et ce stress aussi, enfin voilà, de ce moment assez stressant. C'était vraiment rentrée fracassante, quoi, enfin... De ces deux femmes. Donc voilà, donc on fait la mise au sein. Je sais même, jusqu'à présent, je savais pas. J'étais pour. Enfin voilà, je pensais à l'été, mais je savais pas trop. Quand ils m'ont mis sur le ventre, c'est quand voilà, elle vient sur mon ventre, là, c'est tout s'arrête là. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir ce moment où tout s'arrête et dire ah waouh.
De la rencontrer vraiment.
De la rencontrer, ouais. De oh, waouh, c'est. C'est ça, je vais être responsable de ça et tout. C'est, oh, j'ai pas intérêt à déconner. Ah oui, bien sûr, je veux la mettre au sein parce que je savais pas trop. Peut-être j'aurais envie d'aller faire la fête et tout. Donc là, l'allaitement, c'est contre. Oui, c'est ça. Oui. Bon, allez. Donc du coup, je la mets au sein. Je me rappelle que c'est assez. C'est pas évident la mise au sein cette première tétée. J'ai les bouts de seins qui sont tout petits en fait. J'ai pas des mamelons très développés. Du coup, c'est compliqué. Ils me donnent un bout de sein et j'arrive à la mettre au sein avec le bout de sein. Et voilà, Elle tète tranquillement et c'est, je vois sa petite main là, enfin, c'est vraiment voilà, là, le moment de la découverte et de l'attente, enfin voilà, de, ça y est, on est peau à peau, découverte, elle est là quoi, c'est intense.
Ouais.
Ouais.
Et peau à peau du coup tu dis?
Ouais, j'étais en train de réfléchir à ça. Ouais, je pense que j'avais une petite... Enfin, le truc de l'hôpital, là, et qu'en fait, je l'avais enlevé. Et que... Bah non, c'est pas possible, parce qu'elle était habillée. Ouais, mmh. T'as raison. En fait,
parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée, en fait. C'est que finalement, avec ma première qui est née à la maternité, je l'ai eue en peau à peau avec moi. Mais finalement, c'est passé très vite. Mmh. Et du coup, quand ils l'ont emmenée... Enfin, j'ai eu la chance de l'avoir quand même relativement longtemps, mais... Quand ils l'ont ramenée après le petit check, elle était habillée. Et je sais qu'à la maternité, tu vois, aucun moment tu peux vivre ce truc-là. Ça, je l'ai vécu qu'en rentrant chez moi.
T'as raison.
Et du coup, je trouvais ça, tu sais, avec mes autres enfants, j'ai tellement profité de tête à poil, tu vois, vraiment.
Non, t'as raison. Je dis poil à peau, mais en fait, ça peut pas. Enfin, non, c'est pas possible.
Oui, mais le contact, en tout cas, bien
d'avoir
sûr.
D'avoir son rencontrer. Contact, mais oui, c'est pas du poil à peau parce que je suis arrivée dans la chambre, elle était habillée et je vais découvrir le poil à peau avec elle après. Mmh. En sortant de la maternité, on sent des bains, vraiment...
C'est ça. Parce que ça, ça fait partie, par exemple, des conseils qu'on peut souvent entendre pour les mamans, tu vois, qui ont du mal à lancer leur lactation, c'est mettez-vous en peau à peau. Mmh. Le peau à peau, on est d'accord, c'est bien, vraiment,
le
nu
bébé
ou...
Le voilà, contre ça. Toi.
Ou en couche, à la rigueur, mais voilà. Ouais.
En tout cas, pas en pyjama, quoi. Mmh. C'est pas les mains, le peau à peau.
Non, c'est pas encore la même chose. Quoi. Mmh. Mais du coup, ça devait être quand même hyper fort. Mmh,
ouais, c'était fort, quoi. Voilà, c'était très fort, comme... Enfin, quoi. Enfin, je l'avais contre moi et enfin, on était ensemble. Voilà. Et puis, je pense qu'elle a tété, qu'elle a dormi, que je me rappelle que c'est... Donc, je suis restée 5 jours à l'hôpital. Normalement, ils gardaient 7 jours, mais un peu au bout de 5 jours, enfin voilà, au bout de 4 jours, le gynécologue m'a dit que je pouvais partir aussi parce que j'étais assistée à la maison, en fait. J'étais chez mes parents. Du coup, une auxiliaire de Pierre m'a expliqué que, voilà, comme quelqu'un pouvait faire à manger, porter les plats, parce que quand on a une césarienne, on risque l'éventration. Donc, on peut pas porter. Ah oui, c'est ça aussi, ouais. On peut pas porter. Donc, ça, ils avaient oublié de me le dire, en fait, que je ne pourrais pas donner le premier bain à mon bébé. Que je pourrais pas la prendre dans son landau quand elle aurait envie de téter, que je pourrais pas me lever pour la changer dans la journée. Et ça, je trouvais ça très dur, en fait. Voilà, et un peu comme quand j'avais ressenti qu'il m'avait pas dit qu'on allait me raser, qu'on allait me demander d'enlever mes bijoux.
T'avais manqué d'informations par rapport à ce que c'était
vraiment. En fait, on m'a donné des informations sur la césarienne, l'acte, les inconvénients médicaux, enfin les risques et les... Enfin, les risques médicaux, mais on m'a pas du tout donné, voilà, comment ça allait se dérouler et qu'est-ce que ça allait faire. Et ça a été très très dur pour moi de pas pouvoir la baigner, de pas pouvoir, d'avoir mal dès que je bougeais, en fait. Et de ça, c'est vraiment, quelque chose que...
Ouais, qui pourraient passer pour des détails qui n'en sont pas.
Qui n'en sont pas, qui sont super importants, en fait. À dire à une maman, bah, en fait, ok, moi, si on m'avait dit ça, bah, j'aurais choisi d'accoucher par voie basse, en fait. Si on m'avait dit que je... Oui, que je pourrais pas... Enfin, là, je commence à regretter un peu cette expérience, en fait, ce fait d'avoir lâché prise par en me disant, bon, bah, je vais vivre ce que c'est une césarienne, ça sera peut-être la seule dans ma vie, j'espère. Et en tout cas, je vais... Enfin, voilà, pour voir ce que ça fait vraiment, bah, là, je me rends compte qu'en fait, ça me prive de pas mal d'autonomie avec mon bébé, dès que... En plus, l'équipe, les sages-femmes me le disent pas. C'est au bout de 2 nuits qu'on me dit, mais il faut sonner dès qu'elle se réveille pour boire. Il faut que vous sonniez pour qu'on vous la donne. Faut pas le faire vous. Moi, on me l'a pas dit. Donc, en fait, je rapproche le berceau, je me lève, je l'attrape, je force. Ça brûle énormément une cicatrice de césarienne. Donc, j'ai cette espèce de grosse brûlure qui me... Ah, et après, je dois... Enfin, voilà. Merci à la sage-femme qui, d'un coup, me dit, non, mais en fait, vous avez le droit de sonner tant que vous voulez pour qu'on vous donne. et qu'on vous reprenne votre bébé. Pendant la première mise au sein aussi, ma mère m'avait informée du fait que mon utérus allait se contracter et que j'aurais sûrement mal pendant la... Donc voilà, donc je le sens et je découvre ce que c'est les contractions, en fait, vu que j'en ai pas eu. Donc voilà, je me dis, ah mais c'est la douleur que j'ai pendant mes règles, en fait.
Fameuse tranchée.
Ouais, et du coup, on m'avait jamais dit qu'en fait, je vivais peut-être ça pendant mes règles, enfin, ces petites contractions... contraction, et du coup, bah voilà, je me dis, ah, mais c'est ça et tout, bah ouais, c'est ce que je vis, et enfin, je suis contente, ça me fait une petite, bah, c'est pas des contractions de travail, mais ça me, enfin voilà, je sais mettre une sensation sur ce que ça peut être. Voilà, j'allais dire autre chose. Donc oui, donc je peux pas, les trois premiers jours, c'est pas moi qui vais la baigner, donc c'est ma maman qui va la baigner. Et c'est que le quatrième jour, ou même le cinquième jour, juste avant la sortie, que c'est moi qui vais pouvoir aller la baigner. Enfin voilà. Donc j'aurais bien, vraiment bien aimé être au courant de tout ça, qu'en fait choisir cet acte de confort, entre guillemets, parce que c'est eux qui avaient peur aussi beaucoup de cette première grossesse par...
Qui est quand même senti trompée, quoi.
Ouais, voilà, et qu'en fait, on m'avait pas donné assez d'informations. Il y a un truc, quand elle est née aussi, quand je l'ai vue en siège complet, je me suis dit que ça aurait pu être très dur de la mettre... au monde, moi, dans cette position. Bon, après, c'est que des suppositions, parce qu'en vrai, elle aurait pu se retourner juste avant la naissance, comme le font plein de bébés. Elle aurait pu se retourner, elle aurait pu se déplier un peu pour naître. Enfin, il y a plein de choses, c'est que des suppositions. On sait pas, quoi. On est un peu rattrapé par le médical, par les peurs des autres, les peurs de...
Et puis par des infos comme le fait que le bassin, c'est pas... Enfin voilà, c'est un os, mais il y a aussi des ligaments, et en fait, c'est pas complètement statique.
Ça peut s'ouvrir,
ça peut pas changer de 20 cm, c'est sûr, mais en tout cas, c'est flexible. Et du coup, c'est pas... Les mesures comme ça sont pas justes.
Ça aussi, je vais... Oui, déjà, elles sont pas justes. Alors, en plus, s'ils mentent sur...
Sachant que ce sont des c'est approximatif. Hein, ce sont des estimations par rapport... souvent, on parle des gros bébés. Les mamans sont inquiètes des gros bébés. Ouais. Amis, tout ça, mais... C'est quand même... Je crois qu'il y a 30%, il me semble, de marge de manœuvre. C'est beaucoup.
Ouais. C'est ça. Et après, donc, il y a l'homme sage-femme qui me suivait, que j'avais pas vu beaucoup, en fait, que j'ai vu à peut-être un ou deux rendez-vous pendant ma grossesse, qui va venir au domicile faire le premier rendez-vous. Je sais plus à combien il est, quelques jours après... Voilà, après la naissance, qui vient, et là, il me donne des clés un peu sur le fait qu'il me raconte l'histoire d'une femme qui a deux césariennes parce que, soi-disant, son bassin est trop étroit et qui, en fait, va mettre son troisième bébé au monde dans le camion de pompiers. Il me dit non, en fait, c'est... Enfin, voilà. Et il me dit aussi que le chef de service d'Auxerre, donc 45 minutes de chez moi... fait des accouchements en siège, que lui ça ne lui fait pas peur, et qui dit qu'il n'y a pas de césarienne programmée dans son établissement pour des femmes en siège qui n'ont pas de raison d'avoir des césariennes. Et là je suis très attristée parce que je me dis que j'ai quand même dit que je voulais un accouchement, bon pas à cette personne là, mais quand même dit aux sages-femmes que je suis allée voir le jour de ce fameux rendez-vous où
de la décision,
et qu'en fait personne m'a dit, que le gynécologue ne m'a pas dit que en fait un de ses confrères à 40 km faisait des... Et pourquoi ils m'ont pas... Enfin, alors peut-être ils savaient pas, mais en tout cas j'ai été très attristée et je me suis dit, ouais, il faut vraiment plusieurs avis, quoi. Ouais. En fait, voilà. Dans ces cas-là, il faut vraiment appeler. En fait, j'étais dans la Nièvre, enfin voilà, j'aurais pu appeler la maternité de Nevers pour savoir si elle faisait la maternité
d'Auxerre. C'est difficile de faire les démarches soi-même.
Ouais, complètement. C'est difficile. Et il y a aussi quelque chose qui primait. Moi, je voulais accoucher dans cette petite maternité parce qu'il y avait 300 naissances par. par an. Maternité qui est bientôt bien sûr fermée maintenant, mais qui se battait à ce moment-là pour pas fermer. Et du coup, j'ai été toute seule pendant ces cinq... J'ai été toute seule pendant 3 jours dans le service. Donc c'est quand même... voilà, je voulais une petite... Et les autres étaient des grosses maternités... Enfin, des grosses maternités pour ce que c'est la Bourgogne, mais en tout cas, les grosses maternités. Mais en tout cas, voilà, de se rendre compte que ce qui était vraiment un problème pour certains, en fait, juste à côté, le département d'à côté, les autres praticiens, c'était quelque chose de banal. Et voilà, et c'est un des conseils que je donnerais, c'est de vraiment ne pas hésiter à aller chercher d'autres informations, dans les autres structures à côté de chez soi, si on a envie de quelque chose, parce que c'est peut-être juste là.
Ce qui est un protocole quelque part n'est pas forcément ailleurs. Ce qui fait peur à un praticien, ça ne sera pas forcément le cas à côté. Moi, j'ai même eu des histoires de sages-femmes à domicile. Qui, alors ça serait pas forcément validé par tout le monde, mais qui acceptait d'accompagner des femmes qui attendaient un bébé qui était placé en siège. Ouais, et ça, c'est vrai que les présentations comme ça fait toujours assez peur. Quoi.
Bah oui.
Bon, déjà, t'as commencé à répondre à la dernière question de la fin. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Qu'est-ce qui t'aurait fait du bien? Qu'est-ce qui, dans ces moments-là, est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Non, un peu ce que j'ai dit, le fait de... j'aimerais bien que les femmes elles puissent ne pas avoir toutes les peurs des autres qui leur soient mises sur leurs épaules. Moi j'aurais voulu qu'on me dise c'est un siège, là on voit à 6 mois que votre enfant est placé en siège, peut-être il faudrait que vous vous renseigniez des différentes façons d'accoucher par rapport à un siège et pas ça sera une césarienne. Qu'on me dise que quelqu'un, le gynéco soit capable de me dire moi j'ai peur, mais c'est possible qu'il y ait d'autres confrères pas loin, sans savoir que peut-être il y en avait juste à côté, mais pas loin, qui n'ont pas peur d'un siège et qui en pratiquent beaucoup. Enfin voilà, je me suis quand même renseignée pas mal, parce que là je me rappelle de cette sage-femme homme qui m'avait expliqué tout ce qu'était un accouchement en siège. Donc il m'avait expliqué qu'en fait on mettait la mère, qu'elle accouchait et qu'on ne touchait pas au bébé jusqu'à ce qu'il soit sorti. Et ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Moi, ça m'a impressionnée parce que c'était, si on a besoin de toucher à votre bébé, ça veut dire qu'on intervient, qu'il va se mettre à respirer et que du coup, il va falloir aller vite. Et du coup, c'est ça aussi qui m'avait fait peur. Et j'aurais voulu qu'il m'explique, mais peut-être en me donnant... je trouve ça génial qu'au moins lui m'ait expliqué ça. Parce que je savais exactement, et il me disait, c'est possible, voilà comment ça se passe dans ces cas-là. On met une table sous la maman pour accueillir le bébé et on n'y touche pas, parce que si on intervient, voilà. Mais peut-être me dire ça et me dire à ce moment-là qu'à Auxerre, et le gynécologue en chef pratiquait, parce qu'en fait il m'avait parlé de ça, mais il m'avait pas dit que juste à côté de chez moi il y avait quelqu'un qui le faisait,
qui était
abordable pour moi, qui avait pas peur, parce que ce que je chantais dans le personnel hospitalier, c'était que la peur des gens, et c'est un moment où on est très sensible, et du coup sentir la peur des gens, alors que nous déjà on a été habitués dès toute petite à faire tout un fond, dire qu'on n'est pas capable, qu'on peut ne pas être capable d'accoucher, entre guillemets, et du coup de sentir qu'en plus ça met la peur dans les yeux des gens, c'est très très compliqué. Donc ça,
peut-être que je pourrais partager aussi, j'ai vu quelques très belles vidéos de naissance physio de bébé en siège. Du coup, forcément, ça change de tout ce qu'on peut voir d'habitude. C'est quelque chose qui est très peu montré. Et puis, j'en profite aussi pour faire appel si jamais il y a des mamans qui ont vécu une naissance physio par siège, qui ont envie de témoigner, ça peut être l'occasion. De savoir que c'est possible.
Et peut-être que les maternités qui pratiquent, qui n'ont pas peur, quoi. Soit plus le 10+, quoi. Disent aux maternités autour, aux autres maternités autour de cette maternité, de dire nous, ça nous pose pas de problème. S'il y a des femmes qui ont envie d'accoucher en siège, on est là, quoi.
Sais qu'il y a la maternité de Nanterre qui propose plein de petits affichages autour de la physiologie. Je sais pas s'ils ont quelque chose sur les sièges, mais je regarderai.
Et le fait aussi de ne pas avoir peur, entre guillemets, de... c'est son accouchement, c'est à soi, et de vraiment se préparer, entre guillemets, et de pas... Enfin, je mets des guillemets parce que c'est pas... Moi, j'avais peur parce que j'avais pas fait de préparation à l'accouchement, alors que mon corps, en fait, il est capable d'accoucher et que j'avais pas besoin de préparation. Donc, se préparer dans le fait... pas se dire que les gens ils vont être là bienveillants forcément et à l'écoute quoi et que on devra enfin moi pour le collier par exemple ben même si j'en voulais pas le fait de voir enfin se préparer en fait que peut-être il va y avoir entre guillemets de la violence enfin que peut-être on va devoir être très ferme par rapport à ces décisions et pas se dire je serai écoutée, ben en fait, ou se le dire, mais se dire que c'est possible que non et pas vivre, mal le vivre. Non, enfin voilà.
Mmh. Oui, mais du coup, c'est tout l'intérêt, comme tu dis, de pouvoir se poser toutes les questions pour savoir vraiment ce qu'on veut ou pas et d'avoir quelqu'un qui est disponible, que ça soit le partenaire ou la partenaire, que ça soit une doula présente ou un membre de la famille qui puisse porter la voix. Parce que quand t'es à ce moment-là, t'es ailleurs.
Et les papas, enfin moi je. Enfin les partenaires, que ça soit papa, autre maman ou coparentalité ou personne qui est présente à l'accouchement, c'est un sacré poids sur ses épaules de refuser des gestes en fait, de refuser une aspiration, de refuser un soin. Et il faut vraiment que la personne soit psychologiquement préparée en fait à tout ce qu'on va lui dire à ce moment-là. Et de lire des témoignages, de voir et de voir si on est capable de porter les choses. Pour pas être déçu. Après, on peut essayer de se dire que voilà, le projet de naissance, il est écrit, il y a des choses qui seront pas respectées. On fait avec, et on fait confiance à l'établissement et aux personnes. Pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, se dire que c'est pas forcément ça qui est fait, quoi. De bien s'entourer.
Chouette. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci. J'espère que vous avez passé un beau moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Libre à vous de participer et de contribuer. Vous avez la possibilité de le faire via le compte Tipeee « Enfanter et devenir ». On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.